Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir à 19h20, dans le débat du Club des Idées, on s'intéresse à notre argent. Et si demain nous arrêtions l'argent liquide? Plus de billets, plus de pièces, imaginez ça. Un récent rapport remis au gouvernement s'est d'ailleurs penché sur la question et suggère d'aller, pourquoi pas, vers une société zéro cash. Et c'est vrai que le paiement sans contact, on va en parler ce soir, accélère les choses. Alors nos bons vieux billets, nos bonnes vieilles pièces, sont-ils voués à disparaître? On en parle ce soir avec nos invités, Marc Schwartz, la PDG de la Monnaie de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
On en parle également avec Patrice Bobo. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en histoire économique à l'Université Paris-Nanterre. Et on en parle également avec Manuel Valente.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes directeur analyse et recherche de Coinhouse. On prononce ça comme ça?
Coinhouse.
Coinhouse.
À l'américaine.
Coinhouse, comme une pièce. Spécialiste des monnaies numériques. Alors, première question d'abord pour poser l'enjeu du débat. Est-ce que c'est techniquement possible un monde sans argent liquide? Qui veut répondre?
Bon, je peux commencer si vous voulez.
Marc Schwartz.
Voilà. On parle beaucoup de la fin du cash depuis quelques années, on parle de la mort du cash, on parle de la disparition des espèces.
Après, vous êtes partie prenante, vous, un peu dans l'histoire.
Oui, un petit peu, un petit peu. Mais j'essaye quand même de, quand on se prononce sur des sujets comme ça, qui sont des sujets importants, j'essaye systématiquement de regarder ce qui est dit par les autorités monétaires, par les banques centrales en Europe et dans le monde entier. Donc on parle beaucoup du cash, de la disparition du cash depuis quelques années. Moi, autant vous dire que j'y crois pas. La fin du cash, on en parle depuis longtemps, mais le seul petit problème, c'est qu'on ne la voit pas.
Mais ma question était, est-ce que techniquement, c'est possible ?
Techniquement, je ne crois pas que ce soit vraiment possible, parce que ça voudrait dire que quand on regarde la masse monétaire qui est en circulation aujourd'hui, il faudrait la démonétiser, c'est-à-dire qu'il faudrait la prendre et la retirer de la circulation. Donc si vous prenez le cas de l'euro, l'euro aujourd'hui, c'est 1 400 milliards d'euros, en pièces et en billets, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, qui circule aujourd'hui.
Donc il faudrait tout ramasser et le remettre dans la banque.
Voilà,
ça paraît compliqué.
Il faudrait faire ce qu'on appelle une démonétisation, c'est-à-dire prendre les billets et les pièces qui circulent, les reprendre et leur enlever leur valeur.
Bon, je fais un tour de table. Manuel Valente, est-ce que c'est possible techniquement une vie sans cash?
Déjà, on n'en est pas très très loin. Si je ne dis pas de bêtises, vous pourrez me corriger. 90 à 95% des euros qui sont en circulation actuellement n'existent pas sous la forme de monnaie et de billets. Ils existent uniquement sous la forme d'octets dans des machines qui se transfèrent des informations de l'une à l'autre.
Oui.
Donc passer à 100%, alors évidemment ça créerait quelques problèmes et tout pour faire ça au quotidien. Mais pour la plupart des transactions, ne serait-ce que pour l'e-commerce, c'est déjà évidemment le cas.
Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut payer partout avec sa carte bancaire ou avec des applications spécialisées, comme sur les smartphones. C'était inimaginable, il y a quelques années, de payer une baguette, par exemple, chez le boulanger avec sa carte bancaire. Ben maintenant, avec le sans contact, on peut le faire. Alors, même question pour terminer le tour de table, Patrice Bobo. Est-ce qu'on peut imaginer demain un monde sans cash, sans billets, sans pièces? Est-ce que là encore, techniquement, c'est possible?
Alors, en fait, de mon point de vue historien, le problème, il n'est pas technique, il est social. C'est-à-dire que techniquement, c'est tout à fait faisable. Ça a même été le cas dans le passé. La plupart des gens dans les villages au 19e siècle et même au 20e payaient sans cash. Dans leur commerce, c'était une ardoise et puis on réglait l'ardoise.
Après, on dépensait moins à l'époque, si je puis me permettre.
Oui, mais ce n'est pas la question. Il n'y avait pas besoin de monnaie, notamment dans des situations où la pénurie monétaire était un phénomène qui était fréquent. L'utilisation de cash pour payer des petites dépenses, ce n'était pas forcément automatique. Et il y avait d'ailleurs beaucoup de formes de cash alternatives. Donc, la question technique, oui, techniquement, on peut supprimer le cash. Mais les vraies questions, c'est est-ce que c'est socialement possible? Et deuxième question, qu'est-ce qu'on appelle cash? C'est-à-dire que si on change le sens du terme cash au fil du temps, on passe son temps à courir derrière la disparition du cash.
Alors, il y a quand même plusieurs éléments qui vont dans ce sens, peut-être pas disparaître, mais en tout cas prendre une partie importante de nos paiements du quotidien sans liquide. D'abord, les Français l'utilisent en moyenne la carte bancaire pour 52% des transactions. Donc c'est pas mal, c'est quasiment un paiement pour deux. C'est d'ailleurs beaucoup plus qu'en Allemagne, où elle ne représente que 19% des paiements. Et signe notable de cette tendance, c'est un chiffre que j'ai découvert en préparant cette émission, la forte diminution du nombre de distributeurs automatiques de billets. 3000 en moins en 3 ans. Ça veut dire qu'il en reste aujourd'hui, bon, il en reste beaucoup, 52 000 disséminés sur le territoire, mais tout de même, 3 000 distributeurs de billets en moins sur 3 ans. Alors, on va parler avec vous du boom du paiement sans contact. Je voudrais vous faire partager une petite séquence de la vie du quotidien chez une boulangerie, par exemple. Quand on paie sans contact, ben maintenant, je le disais, ça ne pose plus de problème. Écoutez.
Maintenant, même pour une baguette, ils utilisent la carte. Pour un euro, ils me disent « Ah, j'ai pas de sous sur moi ». Avant, c'était 10-20%, mais là, ça a augmenté à 30%.
Voilà, c'est une petite séquence, mais c'est vrai qu'on est habitué à vivre ça. Marc Schwartz, vous êtes PDG de la Monnaie de Paris. On peut maintenant tout payer sans contact en posant la carte simplement, très simplement, sur l'appareil.
Oui, il est incontestable que depuis quelques années, les modes de paiement électroniques, numériques, et notamment la carte sans contact, ont beaucoup progressé.
C'est bien ?
Ben écoutez, c'est une évolution des usages, c'est comme ça, c'est pas, on n'a pas à dire si c'est bien ou si c'est pas bien dans tous les domaines de la société.
Non mais j'essaie de comprendre en fait pourquoi les institutions, les banques nous emmènent dans cette direction-là.
Alors, je crois que les banques cherchent à nous emmener dans cette direction-là parce que la gestion physique des espèces est quelque chose qui est coûteux pour elles.
Ah, ça coûte de l'argent de gérer
des flux de billets de pièces. Il faut récupérer de l'argent liquide auprès de la Banque de France, des pièces, des billets, il faut les acheminer vers les commerçants, après il faut récupérer les espèces du côté des commerçants, les recycler, donc tout ça est considéré comme coûteux par les banques. Mais il faut bien avoir en tête quelque chose qui est que, en fait, la monnaie ça sert à deux choses principalement. Ça sert à payer, c'est un intermédiaire dans les échanges, et ça sert aussi comme réserve de valeur, ce que les économistes appellent la thésaurisation. On met de l'argent de côté, selon différentes formes, mais notamment sous forme d'argent liquide. Et c'est une des raisons qui explique que, en fait, l'argent liquide, la circulation d'argent liquide n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. C'est assez paradoxal, hein, c'est un grand
C'est-à-dire
paradoxe.
C'est-à-dire qu'on paye de plus en plus avec sa carte ou son smartphone, mais il y a plus de cash en circulation qu'avant.
Exactement.
Comment on l'explique ça ?
On l'explique sans doute par ce phénomène de thésaurisation et le fait que de plus en plus, notamment dans les périodes de crise économique, d'incertitude sur l'avenir, des moments où les taux d'intérêt sont très bas, voire négatifs, au fond, les gens préfèrent garder plus d'argent liquide. La réalité des choses, c'est ça.
Oui.
Le volume des euros en circulation, les 1400 milliards que j'évoquais tout à l'heure, a été multiplié par 6 depuis l'introduction de l'euro. Ça n'a cessé d'augmenter au cours des 20 dernières années. Et ça n'a même pas ralenti pendant la crise sanitaire. C'est même le contraire qui s'est passé pendant la crise sanitaire.
Alors, est-ce que c'est souhaitable, Manuel Valente, qu'on paye de plus en plus comme ça, par paiement, sous forme de paiement sans contact, de carte bancaire ou de smartphone, et puis on va expliquer comment tout ça se gère et se passe à nos auditeurs dans quelques secondes.
Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est, comme on l'a dit, la gestion du cash, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Et également, vous posez la question...
Donc en fait, sous couvert de nous changer la vie et de nous simplifier la vie d'une certaine manière, les banques, elles font des économies pour elles-mêmes.
C'est normal de toujours essayer d'être le plus efficace possible. Mais si vous regardez également au niveau des gouvernements, les gouvernements cherchent constamment à réduire la part de cash. La dernière loi, c'était la loi Sapin 2 en 2015, qui limitait, auparavant, vous pouviez payer jusqu'à 3000 euros en cash.
Oui.
Depuis, vous ne pouvez plus payer que
1000 euros.
Mais ça,
c'est plutôt pour éviter le blanchiment, non ?
Absolument. Oui. Mais ça va de pair. L'idée, c'est que, vous voyez, c'est plusieurs éléments qui vont de pair pour aller vers la disparition progressive des paiements en cash.
Bon, et on ira du côté de la Suède, parce que c'est un exemple ou un contre-modèle, car ils sont en train de revenir en arrière, nos amis suédois, sur la fin du cash, et puis on écoutera la réaction de Patrice Bobo sur la question. 19h29, on se retrouve dans quelques secondes, vous restez avec nous évidemment.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et à 19h30, dans le débat du Club des Idées, on s'intéresse à notre argent et notamment à l'argent liquide. Peut-être demain pourrons-nous fonctionner avec moins de billets, peut-être plus de billets du tout, plus de pièces. Certains en doutent, mais certains y croient aussi. Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités. Est-ce qu'une société zéro cash est souhaitable et est-ce que c'est possible ? Alors, on évoquait les liquidités qui sont aujourd'hui en circulation dans la société, notamment en France et en Europe, avec la Banque Centrale Européenne et l'euro. Il s'est passé quelque chose il y a 4 ans. Souvenez-vous, quand la Banque Centrale Européenne a annoncé la fin d'un billet, on ne l'a pas souvent dans notre poche, le billet de 500 euros. Écoutez.
Quand on sait qu'un million d'euros en coupure de 500, ça tient dans un sac d'ordinateur portable et ça pèse moins de 2,5 kg. Quand on sait ça, on comprend pourquoi ce billet est plébiscité par les trafiquants de tout poil et par les membres des réseaux terroristes. Tout s'arrêtera fin 2018. La BCE aurait pu prendre une mesure plus radicale. Elle ne l'a pas fait pour ménager les pays les plus réticents à leur disparition, en particulier l'Allemagne, très attachée depuis toujours au paiement en espèces.
Voilà, extrait d'un d'un papier reportage de notre journaliste Olivier Samin. Je voulais vous faire écouter ça, Manuel Valland, vous êtes directeur analyse et recherche de Coin House, spécialiste des monnaies numériques, parce que vous évoquiez juste avant la pause l'idée qu'on réduit aussi la circulation ou les opérations qui sont possibles d'être réalisées par tout à chacun en cash, en liquide, pour éviter ce problème de circulation des billets pour les trafiquants de drogue ou pour le blanchiment. Et le billet de 500 va dans cette direction-là aussi. C'est pour ça qu'on l'a supprimé du marché.
Tout à fait. Donc il y a vraiment ce mouvement en France, mais comme aussi dans beaucoup d'autres États, qui tend à vouloir favoriser les transactions par les biais électroniques pour qu'elles puissent être beaucoup mieux suivies.
Oui.
Parce que nous, on considère que tout ce qui est transactions en cash, c'est un peu opaque. Ça peut faciliter toutes les problématiques de blanchiment, voire de terrorisme. Et donc, il y a vraiment ce mouvement vers des transactions beaucoup plus électroniques. Et alors, on peut évidemment se poser la question sur le long terme, sur cet aspect un peu de surveillance généralisée qui peut advenir du fait d'utiliser ces moyens de paiement qui peuvent être complètement traçables par tout un chacun.
Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Moins de cash, ça veut dire plus de paiement par contact, ça veut dire plus d'utilisation de cartes bancaires. Patrice Bobo, vous êtes maître de conférence en histoire économique à l'Université Paris-Nanterre. Est-ce que c'est, au-delà du fait de savoir si c'est souhaitable pour le bien commun et puis pour la facilité de paiement de tout un chacun en France, est-ce que c'est garanti 100% sûr, ces paiements?
En fait, c'est une question qui est compliquée. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on vient d'expliquer, l'État a agi depuis très longtemps pour réduire la part des paiements anonymes. Et on rappellera que le point de départ vraiment d'une action de répression en fait, des paiements liquides, c'est, oui. C'est sous le régime de Vichy. Donc il n'y a pas de hasard dans ces choses-là. Donc il y a bien une corrélation entre des moments d'autoritarisme plus forts et une réduction de la capacité à payer en liquide. On évoquait le billet de 500 euros comme étant un très gros billet. Ramené au pouvoir d'achat d'aujourd'hui, le plus gros billet de la Banque de France en 1800, c'était 13 600 euros.
13 600 euros,
ouais, ah oui. Un billet.
Un seul billet.
Voilà. Donc on est dans des échelles qui sont pas les mêmes. Alors, quelle est la sécurité qui est cherchée derrière ça? Je crois que l'enjeu important, c'est un enjeu de liberté publique.
Oui.
C'est-à-dire que la monnaie, comme disait Dostoïevski, c'est de la liberté frappée. Et l'anonymat est une des dimensions, ou une des qualités en quelque sorte qui permettent d'exprimer cette liberté.
Vous voulez dire que c'est un bien commun qui n'appartient à personne et qui appartient à son propriétaire, à celui qui le détend d'une certaine manière.
Et c'est un des, je pense qu'on va en parler avec le Bitcoin. C'est-à-dire que depuis le XVIIIe siècle, il y a eu un mouvement d'appropriation de la monnaie par les États. Et aujourd'hui, pour faire simple, il n'y a plus de monnaie qui n'appartiennent pas aux États. Et ce qu'on a vu avec notamment tous les mouvements des cryptocurrencies, justement, c'est l'émergence à une échelle internationale de monnaie non étatique.
Oui.
Et ça, c'est une nouveauté considérable.
Alors, on en parlera tout à l'heure. Je voudrais simplement qu'on revienne aux nouveaux moyens de paiement qui sont aujourd'hui en train de favoriser la fin du cash, d'une certaine manière, même si ça n'est pas pour demain. Je vais vous donner la parole, Marc Schwartz, PDG de la Monnaie de Paris, dans quelques secondes. Mais il y a quand même des nouveaux moyens de paiement, encore plus simples que la carte bancaire. Il y a les nouvelles applications, avec le succès aussi des banques en ligne. On peut payer via son smartphone. Et il y a des applications, notamment pour les jeunes, comme l'application Lydia. C'est une application où les transferts de compte à compte sont immédiats. La jeune génération qui a aujourd'hui moins de 25 ans, est-ce que demain, elle ne va pas favoriser plutôt ces nouveaux outils, Marc Schwartz, que plutôt les bons vieux billets à la papa?
Alors, il y a en effet aujourd'hui une floraison de nouveaux moyens de paiement. Mais ça, au fond, comme c'était dit tout à l'heure, c'est l'histoire de la monnaie et l'histoire des paiements qui a évolué au fil des années, au fil des siècles.
C'est super pratique quand même, on peut le dire. On n'a pas de billet dans sa poche, on doit 10 euros, 15 euros, 20 euros à son copain ou à un commerçant, paf, on sort son smartphone, on fait un transfert immédiat de compte à compte, et puis l'affaire est réglée.
Oui, alors en effet c'est super pratique, il faut quand même se dire qu'aujourd'hui quand on regarde les chiffres tels qu'ils sont publiés par la Banque Centrale Européenne, qui a rendu publique une étude il y a quelques semaines sur ce sujet, il faut dire, on parle beaucoup de la fin du cash, la mort du cash, la dernière étude montre que près des trois quarts, 73%, oui. Des paiements au sein de la zone euro ont été faits, d'après cette étude, en espèces. Voilà, les trois quarts.
Mais pas en France.
Alors en France, c'est un peu plus faible, parce que traditionnellement, la France est un pays dans lequel la carte de crédit, la carte bancaire s'est développée plus fortement que dans les autres. Mais en France, on est quand même à 60%. Donc ça reste majoritaire. Comment est-ce que les jeunes vont évoluer au fur et à mesure qu'ils vont devenir adultes et qu'ils vont posséder eux-mêmes des moyens financiers, oui. Ça, il est très difficile de le dire à ce stade. Voilà. Mais je voulais juste, si vous le permettez, réagir sur un point, ce qui a été dit tout
Allez-y.
À l'heure, qui me paraît très important, sur la liberté. Le fait, je ne dis pas qu'il faut garder le cash absolument pour tout, ce serait une absurdité de dire ça. On n'est pas complètement aveugle et on voit quelles sont les évolutions aujourd'hui dans les moyens de paiement. Ce que je dis simplement, et je ne suis pas le seul à dire ça, la Banque de France le dit très fortement, c'est que la liberté de choisir entre les moyens de paiement qui existent aujourd'hui, que ce soit le cash, le chèque, même si évidemment il est très marginal aujourd'hui, ou les nouveaux moyens de paiement numériques, oui. Eh bien cette liberté de choix, c'est un élément de confiance fondamental dans la monnaie. Si on supprimait cette liberté de choix, c'est-à-dire si on allait vers une disparition complète, on saperait un des fondements majeurs de la confiance dans la monnaie.
Je comprends ce que vous dites. Et on va y revenir parce que c'est très intéressant. Et puis il y a aussi le fait que l'argent liquide peut marginaliser aussi des populations entières et notamment évidemment les plus vulnérables. Vous évoquiez à l'instant, Patrice Bobeau, l'attachement aussi de l'argent physique des Français historiquement, et puis vous nous avez un petit peu emmené en arrière au moment de la Seconde Guerre mondiale. Notamment, je voudrais vous faire partager ce que disait par exemple le sociologue Gérard Mermet en 2001, avant l'euro, sur la tradition du banlieue et l'attachement des Français justement à l'argent physique. Écoutez ça.
Il y a d'autres catégories de gens plus jeunes qui ne veulent pas trop s'en éloigner, donc qui ont besoin de l'avoir à côté d'eux, de pouvoir le toucher, de pouvoir le regarder. Et puis en même temps, il y a un problème de discrétion. Lorsque on va voir une banque, une compagnie d'assurance, eh bien on s'annonce comme détenteur d'un certain pouvoir d'achat. Et dans les campagnes notamment, c'est quelque chose qui est souvent assez difficile à vivre et à dire.
Voilà, Gérard Mermet, sociologue en 2001. Alors il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'à l'époque, selon les banques, environ, tenez-vous bien, un Français sur 5 détient chez lui en moyenne 30 000 francs en billets, soit 150 milliards de francs, la moitié des billets qui sont alors en circulation. C'est intéressant ça sur un plan d'ailleurs historique, Patrice Bobeau, parce que aujourd'hui on n'est plus attaché à avoir des billets dans les poches comme ça, sous son matelas ou caché dans son placard. C'est ça aussi le changement de génération.
Alors, on peut le supposer, bien que comme ça a été dit tout à l'heure, l'augmentation considérable des billets en émission de la Banque Centrale Européenne, qui est complètement déconnectée oui. des paiements en espèces, oui. Signale en fait une augmentation importante ou un écart croissant entre les pratiques de paiement en espèces oui. et les pratiques de thésaurisation.
Mais ça ne part pas en évasion fiscale, ça, non
Alors, ça peut partir en évasion fiscale, ça alimente l'excédent des paiements de oui. l'Europe, parce que c'est le billet de 500 euros, c'est un produit d'exportation, hein, comme les grosses espèces en dollars américaines ont été à certaines années là. Oui. Principal produit d'exportation.
On garde sa petite mallette de billets de 500 comme on garde ses onces d'or à la maison.
Exactement, et ça intéresse beaucoup les dictateurs, etc. Hein. Oui. Les gens dont qui ne sont pas sûrs que leur État maintiendra leur propriété. Donc, pour ça, c'est un produit d'exportation important. Considérez également que l'euro, c'est une monnaie deuxième dans des oui. pays comme l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, etc.
Tiens, j'ai une question de consommation peut-être un peu naïve à vous poser. Manuel Valland, je vous donne la parole, directeur analyse et recherche de CoinHouse, spécialiste des monnaies numériques. Et on va en parler d'ailleurs des monnaies numériques dans quelques secondes. Est-ce que ça a un impact sur la consommation, le fait que maintenant on paie plus facilement avec sa carte bancaire et sans billets? Est-ce qu'on a tendance à consommer plus? On a peut-être moins la valeur de l'argent avec cet argent dématérialisé, et du coup les actes d'achat sont d'une certaine manière plus impulsifs. Est-ce que c'est le cas?
Je pense que oui, mais il y a surtout un élément dont on n'a pas parlé encore jusqu'à maintenant, c'est l'apparition d'Internet. Et ça, c'est vraiment un élément qui change absolument tout. Bien entendu, avec Internet, vous ne pouvez pas payer en espèces, et du coup, vous avez évidemment besoin...
Vous voulez dire quand on achète sur des sites en ligne et qu'on se fait livrer à la maison?
Oui. Ou même quand vous parliez tout à l'heure des jeunes, des adolescents, si vous voulez payer un copain quelques euros, si le copain est à distance via n'importe quel oui. réseau social, là du coup, vous avez un véritable besoin, l'envie de pouvoir lui envoyer des fonds.
Donc maintenant, ça c'est possible. Comme les cagnottes d'ailleurs, ou les cagnottes collectives, le crowdfunding, voilà, je cherchais le mot, pour financer quelques projets ou quelques initiatives.
Et donc je suis absolument d'accord avec vous sur le fait que ça réduit fortement la barrière à la consommation. Quand vous êtes sur un site d'e-commerce et que vous pouvez en trois clics acheter un produit et le faire livrer chez vous, c'est bien entendu beaucoup plus facile que de devoir se déplacer au magasin, etc. Et donc c'est vraiment l'arrivée d'Internet qui, là aussi encore, est un énorme facteur qui pousse à la dématérialisation et éventuellement à la disparition du cash.
Alors je disais, ce qui pose aussi la question de la fin de l'argent liquide, c'est évidemment un certain nombre de populations. On pense aux personnes âgées qui sont peut-être aujourd'hui moins à l'aise avec les nouvelles technologies, les sans-abri aussi, à qui il deviendra impossible de faire un don, si demain on n'a plus de pièces évidemment et de billets dans ses poches. Et en France, là aussi c'est un chiffre absolument stupéfiant que j'ai découvert, 500 000 personnes environ n'ont pas de compte bancaire. Alors là, stupeur, Marc Schwartz, PDG de la Monnaie de Paris, comment ils font ces gens-là s'ils n'ont pas de compte bancaire ?
Moi, j'avais plutôt en tête le chiffre de 3 millions de personnes en France. Hein, c'est le chiffre qui a été publié.
Qui n'ont pas de carte bancaire.
Ah oui, non.
3 millions, c'est qui n'ont pas de carte bancaire. Mais 500 000 qui n'ont carrément pas de compte bancaire.
Ouais. Bah, écoutez, ça, on trouve ça en fait dans le monde entier en réalité. Hein. Au sein de l'Union européenne, il y a 30 millions de personnes qui sont dans cette situation. Et donc, en effet, ces personnes-là, comment est-ce qu'elles font pour payer si la seule façon de payer, c'est d'utiliser, de sortir sa carte de crédit ou sortir son téléphone portable, ce qu'on ne dit pas aussi, mais ce qui est un fait dans nos sociétés, il y a à peu près 15 à 20% des personnes en France qui considèrent qu'elles ne sont pas à l'aise avec les outils numériques, qu'elles ne maîtrisent pas l'outil d'Internet. Et on va tomber...
Mais ça, dans 30 ans, ça sera fini, parce qu'on aura fait le saut de génération.
On verra, dans 30 ans, on se retrouvera autour de vous, Julien.
J'espère que je serai toujours là.
Peut-être, mais en tout cas, c'est un vrai problème de nature sociale. C'est-à-dire qu'en allant vers quelque chose, à nouveau, je conteste, hein, qui est la disparition du cash, on exclut d'une série d'achats de biens essentiels, d'actes de paiement du quotidien, toute une partie de la population qui est bien sûr la partie la plus fragile de la population.
Alors vous évoquiez tout à l'heure aussi le fait que ça permet aussi de gagner de l'argent, la fin du liquide et la fin de la circulation, parce que l'argent, ça demande des coûts pour être récupéré, pour être organisé à travers les salles bancaires. Et il y a aussi un aspect qu'on n'a peut-être pas évoqué, qui est important pour tous les commerçants qui nous écoutent, c'est les frais. Les frais que suscite le sans-contact pour les commerçants. Alors, je reviens à ma boulangère et à mon boulanger de tout à l'heure. Écoutez cela au micro, par exemple, de Théo Manval. C'était en 2019, au printemps 2019.
Pour une baguette vendue, c'est-à-dire 1 euro encaissé, il y a 4 centimes qui vont à la banque.
Voilà, 4 centimes, Patrice Bobo, qui vont à la banque pour une baguette à 1 euro. Donc en fait, non seulement, si je comprends bien, les banques font des économies quand elles limitent les émissions de cash ou la circulation du cash avec les billets et les pièces, mais en plus, elles gagnent de l'argent sur le paiement sans contact. Donc
c'est pas faux, mais en fait, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un écosystème bancaire, financier, qui se livre une compétition au couteau, qui a changé de nature. C'est-à-dire qu'on est sorti de la course aux guichets aux agences et on est davantage dans la course aux instruments, en fait, de paiement d'épargne et de transfert. Et le brick and mortar, hein, la banque physique,
oui,
elle a un avantage compétitif qui est son accès au cash. Ça lui coûte de l'argent, elle le sait, elle s'en plaint, mais c'est un avantage compétitif par rapport aux pure players, aux
banques en ligne,
purement numériques, oui, qui sont purement en ligne, et qui, elles, doivent passer par d'autres types d'infrastructures. Or, l'infrastructure du cash, en quelque sorte, elle est en partie amortie, elle est en partie prise en charge par des établissements publics comme la Banque de France ou la Monnaie de Paris. Et donc, si elles jouent bien leurs cartes, ces banques traditionnelles,
oui, oui,
elles peuvent bénéficier, en quelque sorte, de cet avantage concurrentiel. Donc, elles n'ont pas un intérêt si fort que ça à la disparition du cash.
Oui, c'est l'équilibre à trouver.
Exactement. Donc, ouais, ça coûte de l'argent, mais en même temps, c'est un avantage compétitif.
Alors, je voudrais qu'on dise peut-être, avant de passer aux crypto-monnaies et aux monnaies virtuelles, je voudrais qu'on dise un mot de l'exemple suédois. Le pays était très en avance sur la fin du liquide. On en parlait comme d'ailleurs d'un modèle avec l'idée de faire disparaître. Hein, ça avait été verbalisé par le gouvernement, le cash en 2030. Et puis, le pays, la Suède, est en train de faire marche arrière. Pourquoi est-ce que la Suède est en train de faire marche arrière, Marc Schwartz?
Ouais. Parce que je crois que le gouvernement suédois s'est rendu compte, et la Banque centrale suédoise, s'est rendu compte en 2018-2019 que ça commençait à poser problème. Mmh. Et que justement un certain nombre de populations n'avaient plus accès au paiement du quotidien. Donc il y a eu un retournement qui est en effet assez saisissant. Ça fait 15 ans, 20 ans.
Là-bas, c'est hallucinant. Je regardais les chiffres de 2018, qui sont les derniers indicateurs disponibles. Il y a moins de 15% des achats qui se font encore en cash. Moins de 15%. Donc ça veut dire que 85% des achats se font avec la carte ou le téléphone.
C'est ça. Il y a une application qui a été mise en place par le gouvernement, qui est très, très populaire en Suède. Mais ce qu'on constate depuis peu de temps, hein, depuis 2 ans, c'est que ce 15% commence à remonter un peu. Et que les banques se sont rendues compte qu'il y avait des problèmes d'accès aux espèces. Donc ça, c'est un basculement qui est très important, hein, qu'on peut dater de la fin de l'année 2018, l'année 2019. Après ça, donc, la Suède a fait voter une loi qui impose aux banques commerciales de donner accès aux espèces sur l'ensemble du territoire.
Oui, pour assurer l'approvisionnement d'un niveau suffisant de services pour obtenir de l'argent liquide.
C'est tout à fait ça, parce que c'est une forme de service public, de bien commun, de bien public, pourrait-on dire. Et après cette évolution de la Suède, il s'est passé quelque chose de très intéressant, c'est que la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne ont affirmé très fortement le fait que dans l'environnement qui est le nôtre, c'est-à-dire il y a une évolution des moyens de paiement, il y a une évolution des usages, il y a des nouveaux moyens de paiement qui arrivent, il est absolument indispensable de s'assurer qu'on continue à avoir des espèces. Et les pays sont très différents par rapport à ça. On parlait tout à l'heure du Japon.
Oui.
Le Japon est un pays qui est un pays de cash lovers.
Oui.
On paye en cash là-bas, il n'y a pas de limite de paiement. Voilà, donc chaque pays doit pouvoir s'organiser comme il le souhaite, pourvu qu'on ait cette liberté d'accès aux moyens de paiement.
On va faire un petit retour en arrière. On va repartir en 85. Moi, j'avais 5 ans à l'époque. C'est l'arrivée, figurez-vous, de la carte à puce pour payer. Écoutez, à l'époque, comment on en parlait. C'est un papier de Dominique Montel dans un journal sur Europe 1. Écoutez ça.
Pour la carte de débit, c'est le système classique. Le montant de votre achat est débité quelques semaines plus tard sur votre compte en banque. Dans le nouveau système, l'ordinateur du magasin, de la station-service ou du supermarché est connecté avec les banques et votre dépense s'inscrit sur le champ ou au plus tard le lendemain sur votre compte. Dans ce domaine, les Américains ont adopté d'ici la fin de l'année sur leur carte nos puces électroniques françaises. On prédit que d'ici la fin du siècle, qui n'est pas très loin, les cartes auront rattrapé et peut-être même dépassé les chèques.
Vous voyez, déjà à l'époque, on parlait de la fin du cash. C'est formidable quand même de se dire que ça, c'était il y a 35 ans. C'est à peine croyable. Quel chemin parcouru, Patrice Bobo, quand même. Est-ce que d'ailleurs, parce que c'est une invention française, hein, la carte à puce, en partie, est-ce que c'est aussi pour ça que les Français sont si en avance par rapport aux autres? On évoquait tout à l'heure les Allemands sur le paiement avec les cartes.
Alors,
CB.
La carte à puce a pu jouer un rôle, mais en fait, ce qui a été fondamental, c'est cette espèce d'accord quasi monopolistique passé par les grandes banques françaises autour du GIE carte bleue dans les années 70. En réalité, le point de départ, il est là. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'accord pour un développement commun d'une infrastructure de paiement par carte qui s'est faite d'abord avec des cartes à bande magnétique. Alors, la carte à puce a accéléré la chose, a levé les dernières réticences, notamment du côté bancaire, en raison de la sécurité supplémentaire apportée. Mais fondamentalement, ce qui s'est passé en France, c'est une organisation sous l'aile de l'État, en réalité.
Alors, on a beaucoup parlé des paiements par carte. Je voudrais qu'on dise un petit mot, il nous reste encore quelques instants avec vous, Manuel Valent, sur le développement de ces monnaies virtuelles et des fameuses crypto-monnaies. Alors, nos auditeurs, ils connaissent ça par cœur, parce que figurez-vous qu'on a fait une émission il y a peu de temps sur le succès du Bitcoin, qui atteint désormais 30 000 dollars, je crois,
35.
Le 35, le Bitcoin. Quand on a fait l'émission il y a 10 jours, on était à 20 000. Donc bon, ceux qui en ont et qui nous écoutent, alors là, si, c'est le moment de les revendre parce qu'ils gagneraient évidemment énormément d'argent. Est-ce que ça aussi, ça peut être d'une certaine manière un nouvel outil? Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui réfléchissait par exemple à un euro virtuel. Il y avait une crypto-monnaie qui s'appelle Libra, qui va bientôt être lancée par Facebook. Est-ce que tout ça, ça peut révolutionner aussi la manière dont on paie et dont on interagit les uns avec les autres? Et du coup, revenir à ma question de départ, supprimer l'argent liquide.
Absolument. Donc l'idée, c'est, depuis quelques années, on connaît déjà bien le monde des crypto-monnaies, notamment avec le Bitcoin, et au cours des dernières années, on a vu l'apparition de nouveaux produits de crypto-monnaies qui sont ce qu'on appelle des stablecoins, dont le cours n'évolue pas par rapport à une monnaie classique telle que le dollar. Alors ça, c'est clairement le projet de Libra.
Oui.
L'idée, c'est que vous aurez votre compte Facebook dans lequel vous aurez des Libra que vous pourrez envoyer aussi naturellement que d'envoyer un message à des interlocuteurs pour leur envoyer de la valeur. Et vous avez tout un ensemble d'autres acteurs qui commencent à s'y intéresser, et notamment Libra a vraiment fait un impact sur le marché.
Mais avec la puissance de Facebook, si demain on peut payer par Facebook, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'argent quand on est sur Facebook.
Alors, vous aurez toujours les besoins, comme disait Mark Schwartz, des besoins au quotidien, mais notamment sur Internet, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être une énorme révolution. Quand on pense aussi...
On parle de combien de temps, là? 20 ans, 10 ans, 5 ans?
Libra est prévu pour être lancé en 2021.
Mais vitesse de croisière?
À voir. Ça dépend si le public va être intéressé, si notamment, comme vous disiez tout à l'heure, si les jeunes commencent à utiliser ça au quotidien, là, ça risque d'être
alors,
relativement
Marc
rapide.
Marc Schwarz, on peut le dire maintenant, PDG de la Monnaie de Paris, il frappe les pièces et les billets. Vous avez raison, pardon. Vous avez raison. Donc vous n'êtes pas du tout d'accord pour la fin du cash. D'ailleurs, petite question, combien vous frappez de pièces par an à la Monnaie
alors,
de Paris?
L'année dernière, on a frappé 1 milliard de pièces.
1 milliard de pièces, valeur.
De toute valeur. Alors, la moitié pour le marché européen, l'euro, oui. Et la moitié pour l'exportation.
D'accord.
Voilà. Et alors, je vais vous dire quelque chose.
Oui.
L'année prochaine, le ministère des Finances nous en commande davantage.
Davantage.
Davantage. Cette année, aux États-Unis, enfin pendant la pandémie, oui. en 2020, le ministère des Finances américain a augmenté de 60% sa commande de pièces.
Et j'imagine que c'est l'un des meilleurs, des endroits les plus protégés de France.
Ah oui, ça si, ben, je vous inviterai dans notre usine qui est à Pessac, si vous voulez, vous viendrez la visiter, c'est le Fort Knox français.
C'est voilà. Le Fort Knox français. Merci infiniment à tous les trois, on terminera merci là-dessus. Merci Marc Schwarz, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Donc la fin du cash, la fin des pièces, on l'a compris, ça n'est pas tout à fait pour demain.
Europe 1, Julien Bugier.
On se retrouve dans quelques secondes avec les archives d'Europe Soir. Et oui, vous avez reconnu les Beatles, parce que ce soir, on va vous raconter l'histoire secrète des Beatles. À tout de suite.